Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Eruvin, page 7, Daf Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Rabbi Yoshua, mais la deuxième partie de la Braïta suit l'opinion de Rabbi Yoshua de l'homme Ashgach Bebatkol qui ne tient pas compte de la voie céleste. En effet, selon lui, comme il est expliqué dans Masechet Bava Metzia Daf Nuntet Amud Bet, une fois que la Torah a été transmise aux hommes, au Bnei Israël, ce sont les hommes qui fixent la halakha, et ce n'est pas la voie céleste qui aura le pouvoir de le fixer. Quand nous disons « Loba Shamayim Hi », la Torah ne se trouve pas dans le ciel. Selon lui donc, il sera permis d'agir soit selon l'opinion de Beit Shammai, soit selon celle de Beit Hillel. Viva Itema, et si tu veux, je te donnerai une troisième réponse. Hachi Kama, c'est cela que la Braïta voulait dire. Kol echad de mashkechat tre tanaye ou tre amoraye de pige a adade ke en machloket Beit Shammai ou Beit Hillel, partout où tu trouves deux tanaïm ou deux amoraïm qui discutent, comme nous voyons la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel, lo le avid ki kulech de mar ve ki kulech de mar, il n'aura pas le droit d'agir selon l'opinion indulgente de celui-ci et selon l'opinion indulgente de celui-ci, velo ke kumrech de mar ve ki kumrech de mar. Et il ne devra pas non plus agir selon les opinions strictes de celui-ci et les opinions strictes de celui-ci. Et là, mais plutôt, il devra choisir en qui coulait des mar ou que coumrait avid, soit s'il veut suivre l'opinion indulgente de celui-ci et son opinion stricte, il peut le faire, en qui coulait des mar ou que coumrait avid. Ou bien, il peut choisir l'opinion indulgente de celui-ci, de l'autre, et suivre aussi donc son opinion stricte. Cela dit, nous avons expliqué la Braïta. Cependant, Mikoma comme Kashia, la question reste, comment est-il possible de suivre à la fois l'opinion stricte de Rav et l'opinion stricte de Shmuel? Nous avons fini ici le shiur de Maseret Eruvin Daf Vav.
Nous commençons le shiur de Maseret Eruvin Daf Zayin à la huitième ligne du haut de la page. Nous avons vu dans le Daf précédent une discussion entre Rav et Shmuel concernant le cas d'une ruelle en forme de L, donc d'une ruelle à angle, qui débouche des deux côtés dans une voie publique. Nous avons vu que cette ruelle est considérée comme, en fait, deux ruelles qui débouchent l'une sur l'autre. Et la discussion entre Rav et Shmuel est à savoir, est-ce que chacune de ces ruelles sera considérée comme étant une impasse, ou, au contraire, une ruelle qui débouche des deux côtés dans la voie publique? Selon Rav, ces deux ruelles sont considérées comme étant des ruelles ouvertes à la voie publique. Il faudra par conséquent placer un poteau ou une poutre à chacune des entrées. Et à l'angle, donc qui est le point de jonction entre les deux ruelles, il faudra placer un encadrement de porte. Selon Shmuel, chacune de ces deux ruelles est considérée comme étant une impasse. On pourra se contenter donc de placer un poteau ou une poutre à chacune des entrées. Il ne sera pas nécessaire de placer quoi que ce soit à l'angle. Nous avons vu d'autre part une discussion entre des Tanaïm concernant une ruelle ouverte des deux côtés à la voie publique. Selon le premier auteur de la Braïta, il faudra placer un poteau ou une poutre à un des côtés et un encadrement de porte à l'autre ouverture. Et c'est d'ailleurs ainsi que Rav fixe la halakha. Le deuxième avis, c'est celui de Hanania qui pense qu'il y a une discussion à ce sujet entre Beit Shammai et Beit Hillel. Nous rapporterons l'opinion de Beit Hillel. Selon lui, il faudra placer une porte à une des entrées et un poteau ou une poutre à l'autre entrée. Et c'est ainsi que Shmuel fixe la halakha. Nous avons vu à la fin du daf le cas d'une ruelle à deux angles, donc en forme de U, qui débouche des deux côtés dans la voie publique. Selon notre explication, il se trouve que nous avons ici trois ruelles qui débouchent l'une dans l'autre, deux qui sont perpendiculaires à la voie publique, et la troisième qui est parallèle à la voie publique et qui débouche dans les deux premières ruelles. Nous avons vu que les sages ont institué qu'il fallait placer deux portes aux deux angles, donc aux deux bouts de la ruelle parallèle à la voie publique, et à l'entrée de chacune des deux ruelles perpendiculaires à la voie publique, il faudra placer un poteau ou une poutre. Et cela en combinant les opinions de Rav et Shmuel à ce sujet. En effet, nous considérons que chacune de ces trois ruelles est considérée comme étant une ruelle ouverte à la voie publique, selon l'opinion de Rav. Et aussi, nous avons suivi l'opinion de Shmuel concernant la ruelle qui débouche des deux côtés dans la voie publique. Selon lui, il faut placer une porte à une des entrées et un poteau ou une poutre à l'autre entrée. Tandis que selon Rav, on aurait pu se contenter d'un encadrement de porte d'un côté et d'un poteau ou une poutre de l'autre côté. D'autre part, si on suivait entièrement l'opinion de Shmuel, on aurait pu se contenter de placer une poutre ou un poteau à l'entrée des ruelles perpendiculaires à la voie publique. C'est pour cela que la Gemara estime que le fait de combiner les opinions de Rav et de Shmuel pour arriver à cette conclusion qu'il faut placer des portes aux angles de ces ruelles est un peu contradictoire. Car comme nous l'avons expliqué, on n'aurait pu arriver à cette conclusion ni selon l'opinion de Rav, ni selon l'opinion de Shmuel. Elle a opposé donc à cet enseignement une braïta qui dit que celui qui, dans une discussion, suit les opinions strictes de chacun des avis, est un imbécile. Puisque c'est ainsi, comment dans ce cas a-t-on combiné les opinions de Rav et de Shmuel? La Gemara répond, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Kule ke Rav Avduha. En fait, cet halakha a été tranché en suivant entièrement l'opinion de Rav. De Amar Rav Huna Amar Rav, Halakha Vein Morin Ken. Lorsque Rav a dit que la halakha est comme le premier auteur de la Braïta qui dit que pour la ruelle qui débouche des deux côtés dans une voie publique, on peut se contenter de placer d'un côté un poteau ou une poutre et de l'autre côté un encadrement de porte. En fait, la halakha est ainsi, mais il ne faut pas l'enseigner publiquement. Plutôt, il faut enseigner que la halakha est comme Hanania selon Beit Hillel, qui dit qu'il faut placer d'un côté un poteau ou une poutre et de l'autre côté des portes. Et c'est donc ainsi que la halakha a été rendue dans le cas de ces ruelles. La Gemara demande, ou le Rav Ada Barahava Amarav de Amar Halakha ou Morinken, et selon l'opinion de Rav Ada Barahava qui dit que selon Rav, l'Halakha est comme le premier auteur de la Braïta, qu'on peut se contenter de placer un poteau ou une poutre d'un côté et un encadrement de porte de l'autre côté, et c'est ainsi qu'il faut enseigner l'Halakha publiquement, Maïka le Memar, que pourra-t-on dire? Comment se fait-il qu'on a combiné les opinions de Rav et de Shmuel pour trancher qu'il faut placer une porte à chacun des angles de ces ruelles? La Gemara répond, Amar Rav Shizbi, ki lo avdinan kechumre de betre, quand est-ce que selon l'enseignement de la Braïta, il ne faut pas suivre les opinions strictes de deux avis divergents, hecha de satra adade, c'est uniquement lorsque ces deux opinions se contredisent, que gon shedra de gulgolet, comme par exemple le cas de la discussion concernant la colonne vertébrale et le crâne. C'est-à-dire, la loi est qu'un morceau d'os de la taille d'un grain d'orge provenant d'un corps humain transmet l'impureté à celui qui le touche ou à celui qui le porte, mais non pas à celui qui se trouve sous le même toit. Et ce, même si les os sont plus grands, tant qu'ils ne forment pas la majorité du corps humain ou qu'il s'agit d'un os suffisamment important comme le crâne ou la colonne vertébrale. Nous noterons que dans Maseret Nazir d'Afnun Bet, la Gemara se pose la question à savoir, est-ce que le crâne à lui tout seul ou la colonne vertébrale à elle toute seule est jugé comme un os suffisamment important pour transmettre l'impureté à celui qui se trouve sous le même toit, ou bien est-ce qu'il faut qu'il s'agisse du crâne et de la colonne vertébrale? Alors d'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah, dans Maseret Oalot Perek Bet, Mishnah Gimel, Hashedra vahagulgolet shechasru, la colonne vertébrale ou le crâne auquel il manque un morceau, ils ne transmettent plus l'impureté à ceux qui se trouvent sous le même toit, mais seulement comme l'os de la taille d'un grain d'orge. Alors la Mishnah se demande, Vekama chisaron beshedra, quelle est la taille du manque dans la colonne vertébrale qui diminuera son importance, et à partir de ce moment, cette colonne vertébrale ne transmettra plus l'impureté à ceux qui se trouvent sous le même toit. La Mishnah répond, Bet Shammai Omrim Shtei Chuliot, c'est à partir du moment où il manque deux vertèbres, ou Bet Hillel Omrim Chulia Achat, dès qu'il manque une vertèbre, la colonne vertébrale ne transmet plus l'impureté à ceux qui se trouvent sous le même toit, ou Begulgolet, et en ce qui concerne le crâne, quelle est la taille du manque qui diminue de son importance? Bet Shammai Omrim Kimlo Magdeach, il s'agit d'un trou de la taille d'un forêt, comme il est expliqué dans l'Agmara, dans Masechet Bechorot, Daf Lamed Zayin Amud Bet, et dans Daf Lamed Chet Amud Alef, il s'agit d'un forêt dont la taille est équivalente à la taille d'une pièce d'un séla. Il s'agit d'un trou, donc de cette taille, après avoir été élargi, pour que le forêt rentre et sorte librement. La taille du manque est équivalente à celle qui causerait à un homme de mourir. Comme l'explique la Gemara dans Masechet Bechorot d'Aflam et Zaynoumout Bet, il s'agit d'un trou d'une taille équivalente à celle d'une pièce d'un séla. La différence entre l'opinion de Beit Shammai et de Beit Hillel est donc minime. Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel, ve'chen l'inyan trefa, et la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel est la même concernant les blessures mortelles qui rendent l'animal trefa interdite à la consommation. Selon Beit Shammai donc, s'il manque deux vertèbres, ou bien si dans le crâne il y a un trou d'une taille légèrement plus grande que la taille d'un séla, l'animal sera trefa. Tandis que selon Beit Hillel, l'animal sera trefa dès qu'il lui manque une vertèbre, ou bien dès qu'il y a un trou dans son crâne de la taille d'un séla. Finalement, en ce qui concerne les lois de l'impureté, Beit Shammai est plus strict, car tant qu'il ne manque pas de vertèbres, ou tant que le trou dans le crâne n'est pas légèrement plus grand que la taille d'un séla, ses os transmettent l'impureté à tous ceux qui se trouvent sous le même toit, tandis qu'en ce qui concerne les lois de Trefa, c'est Beit Hillel qui est plus strict. Selon lui, l'animal sera Trefa dès qu'il lui manque une vertèbre ou dès qu'il y a un trou dans son crâne de la taille d'un séla. Aussi, concernant les lois de l'impureté, une personne suit l'opinion de Beit Shammai, et concernant les lois de Trefa, une personne suit l'opinion de Beit Hillel. Cette personne suit deux avis contradictoires dans un même sujet, qui est la taille du manque dans la colonne vertébrale et dans le crâne. Sur lui s'applique l'enseignement de la Braïta, qui dit que lorsqu'une personne suit à chaque fois les avis stricts dans une discussion, est un imbécile. Avalhecha de lo satre adade, mais lorsque les deux opinions ne se contredisent pas, car il s'agit de deux sujets différents, comme dans notre cas, il y a une discussion à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour une ruelle qui débouche des deux côtés dans une voie publique, et le deuxième sujet est à savoir comment considérer plusieurs ruelles qui débouchent l'une sur l'autre lorsqu'elles débouchent finalement à la voie publique. Puisqu'il s'agit de deux sujets différents, Avdinan, on peut choisir de suivre les deux opinions strictes. Par conséquent, on a pu suivre d'une part l'opinion de Rav concernant la question à savoir comment considérer plusieurs ruelles qui débouchent l'une sur l'autre et qui débouchent finalement dans la voie publique, et de dire que nous le considérons comme étant des ruelles qui débouchent directement sur la voie publique, des deux côtés, et sur l'autre sujet, à savoir que faut-il faire dans une ruelle qui débouche des deux côtés à la voie publique, on a pu suivre l'opinion de Shmuel. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la conclusion que lorsqu'il y a plusieurs ruelles qui débouchent l'une dans l'autre, il a fallu placer des portes à la jonction des ruelles et placer un poteau ou une poutre à leur sortie à la voie publique. La Gemara demande, et lorsque les deux avis se contredisent, l'Oavdinan, est-ce que nous ne suivons pas les deux avis stricts? Metiv Rav Meshar Shia. Rav Meshar Shia a opposé là-dessus une braïta qui dit la chose suivante. Maaseh b'Rabbi Akiva sheliket etrog be'echad b'shvat. Il y a une histoire où Rabbi Akiva a procédé à la cueillette d'un cédratier le premier jour du mois de Shvat. Le problème qui s'est posé est le suivant. À part le prélèvement de la tourma qui est destinée au Kohen et le prélèvement du maaser de la dîme qui est destiné au Levim, il y a un deuxième prélèvement qui s'appelle donc maaser sheni, la deuxième dîme, dont la destination est différente selon les années. La première, la seconde, la quatrième et la cinquième année qui suivent la Shemitah, cette deuxième dîme est destinée à être consommée ou elle ou sa contre-valeur dans la ville de Yerushalayim, tandis que la troisième et la sixième année, cette deuxième dîme est partagée aux pauvres. En ce qui concerne les arbres fruitiers, il y a une discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel à savoir quelle est la date de passage d'une année à l'autre. Selon Beit Shammai, la date de passage d'une année à l'autre est le premier Shvat, tandis que selon Beit Hillel, c'est le 15 Shvat. Cette histoire de Rabbi Akiva s'est passée à la période de passage entre la seconde et la troisième année. Donc, lorsqu'il est arrivé le premier Shvat, selon Beit Shammai, la seconde dîme est destinée aux pauvres, tandis que selon Beit Hillel, elle est encore destinée à être consommée dans la ville de Yerushalayim. La Braïta dit, Venahag bo shnei surim, Rabbi Akiva a prélevé à deux reprises cette deuxième dîme, Echad kedivrei Beit Shammai, une selon l'opinion de Beit Shammai il l'a donc destiné aux pauvres, Bechad Kedivre Beit Hillel, et une seconde, selon l'opinion de Beit Hillel, qu'il a destiné à la consommation dans la ville de Yerushalayim. Nous voyons donc que Rabbi Akiva a suivi deux opinions contradictoires sur un même sujet. L'Agma répond, Rabbi Akiva gamre istapikle. Rabbi Akiva a eu un doute concernant ce qu'il a appris. Velo yada i Beit Hillel bechad shvat amur. Et il ne savait plus si l'opinion de Beit Hillel est que la date de passage d'une année à l'autre est le premier shvat, i bechamisar bechvat amur, ou bien est-ce que leur opinion est que la date de passage d'une année à l'autre est le 15 shvat. Et c'est pour cela, puisqu'il voulait suivre l'opinion de Beit Hillel, ve'avad hacha lechumra, ve'hacha lechumra. Et il a agi ici selon l'opinion stricte, et ici selon l'opinion stricte. C'est-à-dire, puisqu'il a cueilli cet arbre de Etrog, le premier shvat, et il ne savait pas si selon l'opinion de Beit Hillel, il fallait destiner la seconde dîme aux pauvres ou à la consommation dans la ville de Yerushalayim, il a donc prélevé deux fois cette dîme, comme nous l'avons expliqué, mais ce n'était pas pour suivre deux opinions strictes contradictoires. Yativ Rav Yosef Kameh de Rav Huna. Rav Yosef était assis devant Rav Huna, Yativ et Kamar, et en étant assis, il a récité la chose suivante. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Machloket, la discussion entre le premier auteur de la Braïta que nous avons vu dans le daf précédent et Hanania concernant ce qu'il faut faire pour une ruelle qui débouche des deux côtés dans la voie publique. Selon le premier auteur de la Braïta, il faut placer un poteau, une poutre à une des entrées et un encadrement de porte à l'autre côté. Selon Hanania, l'opinion de Beit Hillel est qu'il faut placer un poteau ou une poutre à une des entrées et à l'autre entrée, il faut placer des portes. C'est uniquement dans les cas suivants, Ve Sratia Mikan. C'est dans le cas d'une ruelle qui débouche d'un côté à la voie publique et de l'autre côté aussi à la voie publique, ou Platia Mikan, ou bien si d'un côté elle débouche dans une place publique et de l'autre côté elle débouche dans une place publique, Aval Sratia Mikan ou Bikamikan, mais si d'un côté elle débouche dans la voie publique et de l'autre côté elle débouche dans une vallée, qui n'est donc pas un domaine public, mais plutôt un carmélite qui est un domaine où il est interdit de porter uniquement Midrabanan, ou Bikamikan ou Bikamikan, ou bien si cette ruelle débouche d'un côté dans une vallée et de l'autre côté aussi elle débouche dans une vallée, Ose Tsurat Hapetach Mikan Vedechi Mekora Mikan. Là, selon tout le monde, même selon Hanania, on pourra se contenter de placer un encadrement de porte à une des entrées et un poteau ou une poutre de l'autre côté. La Gemara demande, Hashta Sratia Mikan ou Bikamikan, si déjà dans le cas où la ruelle débouche d'un côté à la voie publique et de l'autre côté dans une vallée, Ose Lotsurat Hapetach Mikan Vedechi Mekora Mikan, on peut se contenter, selon tout le monde, de placer un encadrement de porte à une des entrées et un poteau ou une poutre à l'autre entrée. Bik amikan ou bik amikan mivaya. Est-ce que a-t-on besoin de nous enseigner que dans le cas où cette ruelle débouche d'un côté dans une vallée et de l'autre côté aussi dans une vallée, qu'on peut se contenter de placer à une des entrées un encadrement de porte et à l'autre entrée un poteau ou une poutre? Il est évident que Hanania sera d'accord là-dessus, puisqu'à aucune des entrées de cette ruelle, elle ne débouche à la voie publique. L'Agma répond à Harika Amar, c'est cela que Rav Yosef a voulu dire. Sratia Mikan ou Bikamikan, dans le cas où la ruelle débouche d'un côté à la voie publique et l'autre côté dans une vallée, Naase ki Bikamikan ou Bikamikan, elle sera considérée comme le cas d'une ruelle qui débouche d'un côté dans une vallée et de l'autre côté aussi dans une vallée, qu'on pourra se contenter, même selon Hanania, de placer à une des entrées un encadrement de porte et à l'autre entrée un poteau ou une poutre. Ou Mesayemba Mishme de Rav Yehuda. Et Rav Yosef conclut cet enseignement au nom de Rav Yehuda sans préciser de quel de ses maîtres il a entendu cette conclusion. Tandis que pour le début de cet enseignement, il a précisé que Rav Yehuda avait entendu cet enseignement de son maître Rav. La conclusion est la suivante. Im haya mavui kale l'erchava. Si cette ruelle qui débouche d'un côté dans la voie publique débouchait de l'autre côté dans une arrière-cour qui était ouverte à son tour à la voie publique, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour permettre de porter dans cette ruelle. Et cela, bien qu'on puisse passer de la ruelle à la voie publique par cette arrière-cour, on pourrait donc considérer cette ruelle comme étant une ruelle ouverte des deux côtés à la voie publique. Cependant, puisqu'il s'agit ici d'un cas où l'arrière-cour est plus large que la ruelle. Il est évident d'ailleurs que la largeur des deux ouvertures de cette arrière-cour ne dépasse pas 10 coudées. L'arrière-cour n'est pas considéré comme étant le prolongement de la ruelle, mais plutôt comme une entité à part. Et il n'y a pas lieu de craindre non plus que ce cas soit confondu avec le cas d'une ruelle qui débouche des deux côtés dans la voie publique, car il est clair que cette ruelle débouche dans une arrière-cour et non pas dans la voie publique. Il est évident qu'il s'agit ici d'un cas où l'arrière-cour débouche aussi dans la voie publique, car si elle était fermée, Rav Yehuda nous apprendrait rien de nouveau, car cette ruelle serait en fait une impasse qui ne débouche que d'un côté à la voie publique, et le fait de déboucher dans l'arrière-cour ne pose pas de problème, comme nous l'expliquerons. En effet, bien que, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction, il est interdit de porter dans une impasse, si les habitants des cours qui donnent dans cette impasse ne se sont pas associés en faisant donc un hérouv qui se fait en plaçant une certaine quantité de nourriture commune dans une des cours donnant dans cette impasse, cela est uniquement car les habitants de cette cour ont un droit de passage dans l'impasse. Celle-ci est donc un domaine commun à tous les habitants de cette impasse. Cependant, lorsqu'il y a une arrière-cour qui donne dans une impasse, en général, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction, l'arrière-cour n'est pas couramment utilisé par les habitants des maisons qui donnent dans celle-ci. Par conséquent, nous considérons que les habitants dont les maisons donnent dans l'arrière-cour n'ont pas de droit de passage dans l'impasse pour interdire de porter dans celle-ci sans participer au hérouv. Par conséquent, dans le cas d'une impasse qui débouche dans une arrière-cour fermée, il n'est pas nécessaire de nous enseigner qu'il est toujours permis de porter dans l'impasse. Forcément, même si la Gemara ne l'a pas précisé, il s'agit ici d'un cas où l'arrière-cour est aussi ouverte à la voie publique, et c'est donc cela le problème, à savoir est-ce que nous considérons que l'impasse est ouverte des deux côtés à la voie publique ou non. Rav Yehuda a donc tranché que nous ne considérons pas que cette impasse ou cette ruelle est considérée comme débouchant des deux côtés dans la voie publique. D'ailleurs, nous pouvons aussi déduire de cet enseignement de Rav Yehuda, puisqu'il a choisi le cas d'une impasse qui débouche dans une arrière-cour, qui ne pose pas de problème concernant le hérouv, comme nous l'avons expliqué, qu'il en sera de même dans le cas où cette ruelle débouche dans une cour dont les habitants ont participé au hérouv, mais s'ils n'ont pas participé au hérouv, il sera interdit de porter dans l'impasse. Amarle, Abaye le Rav Yosef, Abaye a dit la chose suivante à Rav Yosef, Ha de Rav Yehuda, cette conclusion que tu nous as enseignée au nom de Rav Yehuda, de Shmuelhi, lui a été dictée par son maître Shmuel.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Zayin Amud Bet, Deid Rav, car si cet enseignement lui avait été dicté par son maître Rav, Kashia de Rav à de Rav, nous avons une contradiction entre différents enseignements de Rav, Betarte et ce en deux points. De Amar Rav Yirmiya Baraba Amarav, Mavui Shenifrats Bemiluo Lechatzer, une impasse dont le mur du fond s'est ébréché entièrement pour donner dans une cour, Venifretza Chatzer Kenegdo, et le mur d'en face de cette cour s'est ébréché pour donner dans la voie publique. Il s'agit ici d'un cas où cette cour est plus large que l'impasse, et les ouvertures de cette cour ne dépassent pas la largeur de 10 coudées. Voilà la Chahé, Chatzer Muteret, il est permis de porter dans cette cour, et ce, même s'ils n'ont pas participé au hérouv commun de l'impasse, car d'une part, puisque les murs de cette cour ne sont pas totalement ébréchés, il reste un peu de chaque côté, nous considérons ces brèches comme étant des ouvertures qui n'interdisent pas de porter dans la cour. D'autre part, puisque les habitants de l'impasse n'ont pas de droit de passage dans cette cour, c'est en général le contraire, c'est les habitants de la cour qui ont un droit de passage dans l'impasse, l'ouverture de cette cour sur l'impasse n'interdira pas aux habitants de cette cour de porter dans celle-ci. Umavu Yassour, cependant, il sera interdit de porter dans l'impasse, et ce parce qu'on la considère comme étant ouverte des deux côtés à la voie publique. Nous déduisons que c'est à cause de cela qu'il est interdit de porter dans l'impasse, et non pas parce que les habitants de la cour n'ont pas participé au hérouv, parce que Rav a précisé qu'il s'agit d'un cas où le mur d'en face de cette cour s'était bréché pour donner dans la voie publique. Et c'est uniquement à cause de cela, donc, qu'il est interdit de porter dans l'impasse, et non pas parce que les habitants de cette cour n'ont pas participé au Hérouv, car s'il était ainsi, Rav n'avait pas besoin de préciser qu'il s'agit d'un cas où le mur d'en face de cette cour s'était bréché. En effet, le simple fait d'avoir une brèche entre la cour et l'impasse aurait été suffisant pour interdire de porter dans l'impasse, puisque les habitants de la cour n'ont pas participé au Hérouv. Forcément donc, ceci ne pose pas de problème selon Rav, et ce parce que les habitants de cette cour ne sont pas des usagers réguliers de cette impasse, parce que forcément, avant l'existence de cette brèche, ils passaient par ailleurs. La question se pose, Ve'amai, pourquoi est-il interdit de porter dans cette impasse? S'il est vrai que c'est Rav qui avait dicté cette conclusion à Rav Yehuda, Lehave kemavui shekale le rahva, ce cas de l'impasse qui débouche dans une cour pour déboucher à son tour dans la voie publique devrait être comparé au cas d'une impasse qui débouche dans une arrière-cour pour déboucher à son tour dans la voie publique. On devrait donc permettre de porter dans l'impasse. Et ces deux enseignements se contredisent sur deux points. Car d'une part, dans l'enseignement de Rabbi Houda, nous avons vu que le fait que l'impasse débouche indirectement dans la voie publique ne change pas son statut d'impasse, comme nous l'avons expliqué. Tandis que, selon l'enseignement de Rav, nous voyons que lorsque l'impasse débouche indirectement dans la voie publique, elle perd son statut d'impasse pour avoir celui de ruelle qui nécessite un encadrement de porte d'un côté et un poteau ou une poutre de l'autre côté. D'autre part, selon l'enseignement de Rav, nous avons vu que lorsque l'impasse débouche dans une cour par le moyen d'une brèche, il sera toujours permis de porter dans l'impasse, même si les habitants de cette cour n'ont pas participé au hérouf de l'impasse, tandis que, selon la conclusion de Rav Yehuda, nous avons vu que si l'impasse débouche dans une cour par le moyen d'une brèche, il sera interdit de porter dans l'impasse tant que les habitants de cette cour n'ont pas participé au hérouf commun de cette impasse. Amarle, Rav Yosef lui a répondu à Abaye, Anna Loyadana, je ne sais pas qui est-ce qui a dicté cette conclusion à Rav Yehuda. Cependant, Uvda Hava Bedura de Reuta, il y a une histoire qui s'est passée dans un village de bergers. Mavui Shekale le Rahvahava, il y avait là-bas une impasse qui débouchait dans une arrière-cour, qui débouchait à son tour dans la voie publique. Ve'ata le Kameh de Rav Yehuda, et ils se sont présentés devant Rav Yehuda pour poser la question. Ve'loas Recheh Velomide, et il n'a pas exigé qu'on fasse quoi que ce soit pour permettre de porter dans l'impasse. C'est-à-dire, évidemment, à part le poteau ou la poutre à l'entrée de cette impasse. Bi'ikashia mishmeh de Rav. Et s'il est difficile de dire que cet enseignement lui a été dicté par Rav, et avec mishmeh de Shmuel, on n'a qu'à dire que cet enseignement lui a été dicté par Shmuel, velo kashamide, et il n'y aura donc pas de question. Et nous dirons donc qu'à ce sujet, il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Le sujet de discussion entre Rav et Shmuel sera expliqué dans le daf suivant. La Gemara conclut, Hashta de Amarle Rav Shechet le Rav Shmuel Baraba. Maintenant que Rav Shechet a dit à Rav Shmuel Baraba, Vamrela le Rav Yosef Baraba, il y en a qui disent que c'est à Rav Yosef Baraba qu'il a dit cela, Asberalach, je vais t'expliquer cet enseignement de Rav, car lui-même me l'a expliqué. En fait, ce n'est pas toujours qu'il est interdit de porter dans l'impasse qui donne dans une cour, par une brèche, mais Kan Sheirvu, Kan Shelo Irvu. Ici, il s'agit d'un cas où les habitants de la cour ont participé au hérouf commun de l'impasse. Ici, il s'agit d'un cas où les habitants de la cour n'ont pas participé au hérouf commun de l'impasse. C'est-à-dire, Rav interdit de porter dans l'impasse uniquement lorsque les habitants de la cour n'ont pas participé au hérouf commun de l'impasse, mais s'ils ont participé à ce hérouf, il sera permis de porter dans l'impasse. Et en fait, la raison pour laquelle Rav a choisi de parler du cas où le mur de la cour s'est aussi ouvert sur la voie publique, c'est pour préciser que même dans ce cas où la cour est empruntée par le public pour passer d'un endroit à l'autre, donc d'une voie publique à l'autre, il est quand même toujours permis de porter dans la cour. En tout cas, une fois que Rav Shechet nous donne cette interprétation de l'enseignement de Rav, nous pouvons conclure « De Rav à De Rav Nami Lokashia » il n'y a plus de contradiction entre les différents enseignements de Rav, même si nous disons que la conclusion de Rav Yehuda, que nous avons vu plus haut, lui a été dicté par Rav. En effet, nous pourrons dire Kan Sheirvu Benechatzer im Benemabouy. Cette conclusion de Rav Yehuda parle d'un cas où les habitants de la cour ont participé au Eruv commun avec les habitants de l'impasse, ou bien comme Rav Yehuda le dit lui-même, lorsque l'impasse donne dans une arrière-cour, Kan Shelo Irvu, tandis qu'ici l'enseignement de Rav parle d'un cas où les habitants de la cour n'ont pas participé au Eruv commun des habitants de l'impasse.
C'est pour cela que...
Mais en fait, selon Rav, le fait que l'impasse débouche indirectement dans la voie publique, en passant par l'arrière-cour ou par la cour, ne change pas le statut de l'impasse. Nous ne considérons pas que cette impasse donne des deux côtés dans la voie publique. On pourra se contenter donc d'un poteau ou d'une poutre à l'entrée de l'impasse, sans mettre quoi que ce soit au bout de l'impasse où elle débouche dans la cour ou dans l'arrière-cour. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Eruvin Daf Zayin.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.